Les 18h sur Radio G.
Toutes les semaines, retrouvez Novorama, l'actualité de la scène indie rock, pop, électro, avec des chroniques de nouveaux albums et une interview d'un groupe en fin d'émission. Retrouvez Novorama tous les vendredis à 18h sur Radio G 101.5.
Novorama.
Salut et bienvenue dans Novorama. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Une nouvelle année qui commence sans Clément, mais je vous rassure tout de suite, on le retrouve la semaine prochaine. C'est une émission spéciale aujourd'hui. On va revenir sur des interviews de l'année 2023 dans notre émission. On fait ça chaque année pour commencer une nouvelle année, repartir d'une page blanche en tout cas. Et pendant cette heure, on réécoutera donc des interviews d'Acid Arab, Kids Return, Sabrina Belawel ou encore Brax plus Falcon. Mais on commence tout de suite par une nouveauté, c'est Night Radio. Les Finlandais sortent ce disque qui s'appelle Elevation. Ça tombe bien, c'est parfait pour s'élever pour cette nouvelle année 2024. Night Radio dans Novorama.
Thank you.
Night Radio dans Novorama, c'est une émission spéciale cette semaine. On rediffuse des interviews de 2023, une sélection en tout cas. Et on commence tout de suite par Kids Return. Un groupe parisien qui commence à se faire une belle petite place à l'international après avoir gagné plusieurs prix. Leur histoire commence aux États-Unis. Clément et Adrien nous racontent leur début.
Ça commence à Los Angeles et on était tous les deux avec deux autres amis. On avait un autre groupe avant avec Adrien. Et on était censé partir faire une tournée justement en Californie, à San Diego, Los Angeles, San Francisco. Et c'est arrivé pile pendant le Covid. Du coup, toute la tournée s'est annulée. Et on est rentré à Paris un peu en urgence comme ça. On savait pas du tout ce qui allait se passer à l'époque comme personne. Et avec Adrien, on a eu ce feeling de se confiner ensemble. Et de là, en fait, on a commencé à regarder plein de films. On faisait de la musique. On était en train de finir un autre disque. Donc dans notre groupe, mais on n'arrivait plus. Moi, j'étais à la batterie. Adrien était au synthé. Et on regarde des films, et il me dit « Viens, on devrait regarder des films de Kitano, j'ai tout le coffret DVD ». Moi, je connaissais très mal, lui connaissait un peu. Et du coup, on regarde « L'été de Kikujiro », »,« Hanabi », etc. Et un jour, on tombe sur « Kids Return », et on regarde ce film, on se couche, on n'arrive même pas à débriefer, je pense qu'on était un peu fatigué en plus et tout. Et le lendemain, je me rappelle, lui, il jouait la BO d'un autre Kitano, qui était « L'été de Kikujiro », et il jouait cette BO-là.
Okay.
Et j'étais sur le canapé, et je lui dis si on fait un groupe, on devrait absolument s'appeler Kids Return, c'est un nom de ouf. Et un truc un peu genre, waouh.
Le film, l'histoire du film, le retour en enfance.
Deux meilleurs potes qui prennent des chemins, qui se retrouvent. Il y avait un truc un peu...
Le côté espace-temps sur le retour et en même temps l'enfance qui est genre tournée vers le futur et tout. Il y avait tout un truc d'émotion, de mélancolie, de nostalgie, de truc aussi de... On avait envie de faire voir la musique qui nous plaît, la musique qu'on écoutait quand on était petit, remise au goût du jour et tout. Et il y avait vraiment ce truc-là...
Ça avec un peu un choc aussi, pour moi en tout cas... qui connaissait pas esthétique aussi de l'image, comment c'est filmé, tous les couleurs et tout dans le film, c'est assez dingue. Donc ça part de là en fait.
Ouais, donc ça part de ce film. Et vos intentions, en fin de compte, au début, sont tournées très vite vers l'international.
On a construit Kids Return sur une envie de faire de la musique aussi de manière assez universelle pour tout le monde, pas juste pour France, tourner dans les villes françaises et à Paris. On a envie de s'exporter, aller aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et en fait, il se trouve que on est allé quelques fois à Los Angeles et quelques fois à New York, et en fait ça a commencé à plutôt bien réagir, et que là avec notre tourneur on a décidé de monter une tournée.
C'est le premier truc qu'on a dit à notre tourneur en fait. Au moment où on a créé le groupe, on allait voir différents tourneurs à gauche de la ligne, on a eu cette discussion et on leur a dit bah nous c'est simple, si on bosse ensemble en fait dès le début, on commence autant en France qu'en Europe qu'aux États-Unis, on va pas commencer à faire cette tournée des smacks que plein de groupes font 10 fois mieux que nous, parce que c'est des groupes qui chantent en français et qui sont des groupes hyper français, et nous en fait la musique qu'on écoute c'est une musique anglo-saxonne quoi. Et si on va être plus précis, tu vois, c'est vrai qu'aux États-Unis en tout cas, plus californienne, même s'il y a plein de trucs à New York qu'on adore, mais tu vois, à LA, il s'est passé beaucoup de choses, en tout cas qu'on aime musicalement. Donc nous, on s'est dit, faut qu'on aille là-bas, quoi.
Ah justement, vous pouvez nous parler de la chanson Lost in Los Angeles.
Bah, elle parle justement de ce moment où on est parti à Los Angeles avant même de créer le groupe, où on pensait qu'on allait faire des concerts là-bas il y a 3 ans, avec notre ancien groupe dans lequel on était, où moi je faisais du clavier et Clément faisait la batterie. On pensait qu'on allait faire des concerts, et en fait, on est arrivé là-bas, la moitié du groupe est pas partie, donc les autres mecs. Et nous deux, on est arrivé à Los Angeles. Un peu perdu, les dates étaient en train de s'annuler. Il pleuvait dans la rue. Tous déconstruits, tu restes pas là 3 mois, mais tu restes 2 jours, tu reprends un avion pour Paris, t'es complètement, jet lag, t'es perdu, complètement dans le temps. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que tous les deux, on a créé une aventure ensemble. Donc c'est ce côté, t'es perdu dans une ville à l'étranger, mais en fait, c'est là que t'as fait le deal. En fait, ça a été le début de l'aventure.
Eh bien, on va écouter ce morceau Lost in Los Angeles, c'est Kids Return dans Novorama. C'était un extrait de l'interview de Kids Return qu'on a diffusé en mai dernier. Une émission spéciale cette semaine, on revient sur les interviews de 2023. Dans quelques instants, on écoute Acid Araba.
Stupid conversation. I don't wanna mess with the meaning of life. I just wanna say that music is not a competition. I don't wanna lie about moments of joy.
N-O-V-O R-A-M-A Novorama.
Acid Arabe dans Novorama avec un extrait de leur tout dernier album qui s'appelle 3. Il est sorti en ce début d'année 2023. Et on va les écouter maintenant en interview. Une interview que j'ai enregistrée il y a un petit moment déjà, effectivement. C'était en septembre 2021 au festival Hop 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 à Orléans. On a parlé justement de la crise du Covid qui a commencé à peu près il y a 3 ans. On était en plein confinement. Justement, pour parler de tout ça dans un documentaire qui s'appelle Music Live in Covid Live. Je vous invite à aller le visionner. Il est sur notre site internet en homepage, novorama.com et novorama, tout ça est en accès libre bien évidemment. Et dans ce documentaire, on peut voir justement comment les professionnels de la musique ont vécu cette crise du Covid-19. On y voit des tourneurs, des directeurs de salles de concert, au Trabendo par exemple, à Petit Bain, mais également du festival Wheel of Green, Peacock, Nouvelle Scène, ou encore au Pop-Up également, puisqu'on y voit Acid Arabe. Alors ils reviennent dans cette interview sur leur premier confinement. Comment ils l'ont vécu, ce premier confinement, Acid Arabe?
On s'est reconnecté avec les sources de la vie, nos familles. Kenzie s'est marié.
Ouais, moi j'ai passé 2 mois dans ma famille, ce que j'avais jamais fait en 15 ans.
J'étais bloqué en Algérie pendant un an, voilà, c'est ça, ouais.
J'ai passé plus de temps avec mon fils que toutes les années auparavant.
Est-ce que ce confinement, ça vous a permis de créer de nouvelles musiques?
Ouais, on n'a pas vraiment fait de nouvelles musiques pour des disques ou pour un prochain disque, mais on a préparé une nouvelle version d'un live qui s'appelle Le Climat, qu'on fait avec une illustratrice libanaise qui s'appelle Raphaël Macaron. Et voilà, le confinement, ça nous a, enfin entre les deux confinements, mais ça nous a permis d'avoir un peu de temps pour préparer ça. C'est le seul vrai travail qu'on a fait pendant toute cette période de Covid, quoi.
Et comment vous avez vécu cette période sans festival, sans tournée en fin de compte?
C'était très curieux de passer de l'état de tourner tous les week-ends et être un peu éclaté la semaine et tout à ben plus rien. Ça a été très très soudain, très abrupt, mais vraisemblablement pour tout le monde aussi. Nous, on était au début d'une tournée et au début on pensait qu'elle allait être courtement interrompue, et puis petit à petit on a commencé à percevoir qu'en fait elle était tout simplement morte. Mais ça a pris du temps pour le comprendre, l'accepter et tout. Et parallèlement à cette déception, à cette douleur, à cette tristesse et tout, on a tous plutôt passé quand même du bon temps. Ça faisait des années qu'on n'avait pas pu, par exemple, de manière générale, depuis des années, on participe plus à ce qui se passe le week-end avec les gens qu'on aime, parce qu'on n'est jamais là le week-end. Et là, tout d'un coup, tous les week-ends, voilà, on s'est reconnecté avec nos entourages.
Par rapport à moi, en fait, moi, j'avais un cas un peu spécial. J'avais un problème de santé, voilà, c'est ça, et j'ai fait une opération, donc j'étais obligé de rester à côté de ma famille, quoi, en Algérie.
Bah, j'ai rien à rajouter, oui, même titre que Guido, ça nous a permis de se reconnecter avec notre entourage, famille, amis, et puis voilà, de se reposer aussi, parce que ça faisait quand même 5 bonnes années qu'on tournait vraiment beaucoup.
Oui, parce qu'effectivement, vous jouez beaucoup en France, mais vous jouez aussi beaucoup à l'étranger. Hein.
Effectivement, on tourne pas mal à l'international, et effectivement, le fait qu'on ne puisse plus trop tourner à l'international nous impacte terriblement. Je pense que c'est quoi, les 3/4 des dates qu'on fait à l'inter, facile. Et là, il est assez évident qu'on retrouvera jamais ce rythme-là de voyage et tout. Puis peut-être qu'on n'a pas non plus très très envie de le reprendre non plus, c'est-à-dire qu'il y a... Ça soulève aussi des questions, au-delà du Covid et tout, il y a aussi des questions climatiques en ce moment qui sont au cœur de toutes les interrogations. L'usage répétitif et forcené de l'avion est peut-être un problème, peut-être qu'on fait partie de ce problème aussi. Finalement, tourner moins, ça va jouer sur ça également. Il y a beaucoup de DJ, de DA un peu partout dans le monde qui militent pour un retour à des bookings plus locaux. Et ça va peut-être créer des dynamiques différentes. Nous, on en sera exclus, sauf à Paris. Mais c'est sûrement quelque chose qui sera positif pour l'avenir.
Et l'avenir, vous le voyez comment alors?
Tourner différemment en tout cas, moins faire de one shot, essayer de regrouper des zones, essayer de le faire un peu plus intelligemment, un peu plus éthiquement. Et sinon, l'avenir, ben, on le sait pas en fait. On sait pas. On n'est pas à l'abri d'un variant XYZ, j'en sais rien. Enfin, donc on est plutôt pas pessimiste, mais pas très optimiste non plus pour l'instant, quoi. On sait pas.
Acid Arab dans Novorama, c'était en septembre 2021. On voit que les choses ont un peu changé, même pas mal depuis cette année. Effectivement, c'est une interview qu'on diffuse pour la première fois et qu'on retrouve par petits bouts dans le documentaire Music Live in Covid Life. Il est sur notre site internet en accès libre. C'est la seule plateforme d'ailleurs pour le visionner, novorama.com, Novo Era Emma. On y retrouve également d'autres interviews dans ce documentaire. On y voit Lescope, Rag, Joachim. On voit également Dombrance faire danser les enfants. À l'époque, on pouvait faire que des concerts dans des écoles. Tout ça est expliqué dans notre documentaire Music Live in Covid Life. Pour continuer, un nouveau morceau d'Acid Arab, extrait de leur dernier album qui s'appelle 3.
يا غادي شهور الزيبان صد الجلالة خسلها يا المحبوب ماني ناسيك كم حسايب على الكيانة يا الغالب شوف بعيني ييك ما في لسوس ولا الخلا واللي عاداني راني العيين والفقر تربينا فيه رباني زاعي على القناعة في قبره نترحم عليه حليم قليل جابوني رجالة والفقر تربينا فيه رباني زاعي على القناعة وفي قبره نترحم عليه
Quel plaisir d'écouter un extrait du dernier album d'Acid Arab sorti l'année dernière dans cette première émission de 2024. C'est une émission spéciale. Cette semaine, on réécoute des extraits d'interviews de l'année passée, des artistes qui nous ont marqués. On reste dans les saveurs orientales puisqu'on retrouve maintenant Sabrina Belaouel. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Et bienvenue dans Novorama. Tu viens de sortir un album chez Infine. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Je parle pas l'arabe. Désolé. Il s'appelle Al Adam. Al-Hadr, non, comment tu le prononces?
Al-Hadr.
Ah voilà, bon, effectivement. tu peux nous parler, alors on va revenir un petit peu à tes débuts. Tu peux nous parler de ton premier émoi musical? Je sais que tu viens de Bagneux. Tu écoutais quoi quand tu étais petite?
Quand j'étais petite, j'écoutais plein de choses, mais j'écoutais aussi et surtout beaucoup Mariah Carey. Et Whitney Houston, et puis les Destiny's Child et les Boyz II Men.
Waouh! D'accord. Tu as fait plusieurs projets musicaux. Et alors, tu es même passé par le punk, j'ai vu.
Ouais, c'est vrai que j'ai monté un trio de punk avec deux copines. Et je jouais de la basse et je gueulais dans le micro et ça faisait du bien. Hein. C'était un émoi aussi musical. Ça ouais. aussi, ça fait partie des bons souvenirs.
Tu écoutais,
bien forgé.
Tu écoutais du punk, des groupes de punk? Qu'est-ce qui t'influençait?
Ouais, j'écoutais du punk, j'écoutais beaucoup de rock industriel ou des choses plus trip-hop ou enfin Massive Attack, ce genre de choses. J'écoutais beaucoup, ouais.
Alors, si je peux me permettre, c'est des influences un peu clair-obscur. Est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé ton identité musicale, Sabrina?
Je pense que j'ai utilisé beaucoup de mes ressources personnelles pour vraiment pousser un maximum de mes capacités, alors que ce soit vocal ou ma curiosité à travers la technologie, des trucs comme ça. Donc j'ai fait vraiment beaucoup d'expérimentations qui, je pense, aujourd'hui me permettent de dire que j'ai trouvé une identité musicale, mais qui n'est pas censée être figée. Je pense qu'elle va encore évoluer.
Il y a quelque chose aussi que tu aimes beaucoup, c'est d'aller trafiquer les sons, et je sais que tu utilises des logiciels notamment développés par l'IRCAM.
Oui, j'ai travaillé avec l'IRCAM sur des logiciels parce que j'aime bien m'amuser avec les sons, avec la voix, comme on l'entend beaucoup dans l'album. Et on a développé ensemble des outils qui me permettent d'être plus à l'aise et d'aller plus loin dans mes expérimentations. Donc c'est assez cool. Et il y a aussi une petite surprise pour la scène. Donc pour ceux qui aiment cet album, venez me voir sur scène aussi.
Ah bon? Alors qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux pas le dire, c'est ça? C'est un secret?
Non, mais c'est juste un instrument de musique qu'on a développé avec l'IRCAM et qui est vraiment dédié à la scène et qui est assez immersif et intuitif. Et donc ça fait partie aussi de ma curiosité dans la musique, c'est d'aller non seulement plus loin dans le studio, mais aussi sur la scène. C'est là que c'est intéressant.
Dans ta bio, il précisait que tu es berbère, musulmane. Et alors, je dois t'avouer un truc, c'est la première fois que je vois dans la bio d'un artiste où il est précisé, en tout cas, sa religion. Alors, c'est peut-être certainement du fait que bon, la plupart des artistes que je reçois sont soit très pudiques ou alors ils sont souvent athées, effectivement. Quelle est la place de la religion dans ta musique?
La religion, c'est quelque chose de très intime pour moi, donc c'est une de mes composantes. Après, je parle très peu de religion. Je suis très fière d'être musulmane, mais c'est pas, j'ai pas envie d'être uniquement identifiée donc ni par ma religion, ni par ma couleur, bien ni sûr. Par mes origines, ni par mon adresse, ma localisation, où est-ce que j'ai grandi et quelle école j'ai fait. Donc c'est vraiment pas une chose sur laquelle j'insiste, mais c'est vrai que ça fait partie de moi et je pense que c'est sûrement indiqué.
En tout cas, tu dis
ça fait partie du champ lexical quand on parle de Sabrina Belaouel, parce que j'ai beaucoup de spiritualité dans ma musique, donc c'est plus la spiritualité que de la religion.
Ouais, parce que tu dis à la maison en arabe, ma famille et moi, nous n'avons pas peur de parler de Dieu, mais il est difficile d'en parler à l'extérieur dans la société française de tous les jours.
Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un tabou qui classe encore un peu les gens dans ce monde un peu binaire où en fait soit on est croyant, soit on est non croyant, et puis ça oppose souvent les gens, alors que c'est un choix libre et c'est un choix tellement intime. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur parfois de prononcer le nom de Dieu dans des conversations à l'extérieur, en communauté, ou à l'école, ou voilà, on est dans un pays où la place de Dieu est quand même mise un petit peu à côté ou sous la terre, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué parfois d'en parler, mais moi j'aime bien en parler comme dans un sujet philosophique, donc à partir de là ça ouvre un petit peu plus le débat et on a moins l'impression d'être de passer pour une mystique.
Ouais. Et puis il y a un morceau qui s'appelle Jah, comme Jah Rastafari, qui est un dieu des Rastas, si je me trompe pas.
Yes. il y a un jeu de mots avec Jah et la répétition du mot jamais que je dis dans ce morceau. Et puis oui, c'est vrai que je parle de Dieu, je trouve que c'est intéressant de dire qu'on n'est pas seul, on n'a pas peur d'être seul. Ouais. Déjà parce que moi j'ai beaucoup de gens autour de moi en tout cas qui ont lutté avec cette idée là d'être seul. On a toujours tu vois, il faut être accompagné pour aller au cinéma, il faut être accompagné pour aller au restaurant. Moi, je trouve ma quiétude dans la solitude, et aussi parce que j'ai l'impression d'être ok avec moi-même. Ouais. Et donc, il fallait que je le dise et que je le répète. Je trouve que on parle pas assez de Dieu dans les clubs.
Ah, oui, c'est sûr.
Ouais. Et voilà. Ouais. Et dans le R&B, c'est important en France. De parler un petit peu de tout, et là le sujet c'était Dieu, et pourquoi pas l'entendre dans un club.
Mais tu vois tu vois des rêves partis dans des centres de culte musulmans par exemple, tu penses que c'est possible?
Non, pas du tout, non, parce que c'est pas du tout le propos, mais il faut tu vois, pour moi c'est de la poésie en fait de parler de Dieu, c'est de la poésie de parler de n'importe quoi. C'est ce que je fais de la musique, et donc j'essaie d'extraire un petit peu les gens de leur réalité, de leurs soucis, et donc tout ce qui est entertainment, je le fais, je le prends au sérieux, et donc pour moi c'est pas la musique, je vais pas l'écouter dans des lieux de culte ou c'est pas du tout le sujet. Quand tu vas dans un lieu de culte, justement, il faut y aller avec dans un silence en fait, t'es dans la communauté, t'es dans la communion, donc non. Mais par contre, dans les clubs qui sont des lieux de rassemblement, c'est là que la musique a sa place.
Oui, il y a beaucoup d'artistes qui disent que la musique est pour eux leur religion.
Ouais, c'est beau, mais c'est parce que c'est magnifique, ça permet de se connecter à des choses immatérielles, à nos propres émotions, se connecter aux autres aussi. Donc je comprends que ça soit, enfin il y a des, moi j'écoute beaucoup de fréquences par exemple, pas forcément de musique mais de fréquences qui me permettent de méditer et de me recentrer aussi, donc ouais, c'est une forme
sur quelle fréquence
de spiritualité.
Sur quelle fréquence tu te mets? On est à la radio.
La fréquence de l'amour.
D'accord.
La fréquence de l'amour, donc.
D'accord. Ok, exactement. Voilà, il suffit juste de se pencher sur la bonne radio. Tu as bien dit. Tu as des origines algériennes. Est-ce que tu t'es déjà produit là-bas?
Je me suis jamais produit en Algérie, et ça fait partie de mes objectifs.
Est-ce que tu as déjà vu des concerts en Algérie? Comment tu vois le public là-bas?
J'ai participé à des raves parties à Alger.
Ah ouais.
Alors très underground et très secrète. Ouais.
Raconte-nous.
C'était assez cool. Ouais. c'est sympa parce que en fait là-bas, quand tu connais des gens qui sont un petit peu dans le milieu de la musique underground, il y a toujours une adresse où il faut se présenter à telle heure dans quel quartier, et on te donne accès à une petite maison, à une petite trappe qui te donne vers des. C'est assez extraordinaire, mais j'aime bien tout ce process. On t'ouvre le chemin. C'est un peu comme Alice au pays des merveilles, quoi.
Et puis j'imagine que
les yeux et tu te retrouves dans un endroit fantasmagorique. C'est assez incroyable et je m'attendais pas du tout à ça. Donc
c'est mieux qu'en France.
Ça n'a rien à voir, quoi. Vraiment, c'est dingue parce que. Ouais, parce que il y a beaucoup d'influences arabes en fait dans la musique. C'est de la techno, mais avec des flûtes, des jawars du désert, des bendirs. C'est de la trance vraiment arabe, quoi, et pour le coup algérienne. Et donc c'est pas la même chose. En tout cas pour moi, ça me connecte à des choses différentes parce que c'est la terre de mes parents. Donc forcément, ça appelle à d'autres choses à l'intérieur de moi. Donc c'est assez intéressant.
Choose which pose it should. Never be the same when the eclipse on. Yes. Never be the same when the eclipse on. Never be the same when the eclipse on. Never be the same. Never, never be the same when the never be the same when the eclipse on. Yes. Cause you don't trust me.
Sabrina Belawel et Basil Free avec le titre Eclipse dans Novorama. C'est une émission spéciale cette semaine avec des interviews de l'année 2023 pour cette première de 2024. On a écouté Sabrina Belawel à l'instant et voici Brax plus Falcon, deux producteurs de musique électronique. Ils sont connus pour avoir sorti leur premier disque sur le label Roulé, fondé par Thomas Bangalter des Daft Punk. Brax a monté ensuite Stardust, toujours avec Thomas Bangalter et Benjamin Diamond. Falcon, lui, a produit un morceau avec les Daft Punk pour leur dernier album Random Access Memory. Ils ont beaucoup fait parler d'eux, en tout cas, l'année dernière, avec la sortie de leur EP, Brax plus Falcon. Il s'appelle Step by Step, cet EP, où on retrouve notamment Panda Bear des Animal Collective. Brax plus Falcon, je les ai rencontrés dernièrement. Le duo nous raconte leur début.
On est cousins, on a eu nos parcours respectifs pendant l'adolescence et puis oui, on s'est retrouvés un peu par hasard grâce au label Roulé dans les années 98-2000, quelque chose comme ça, où nous avons chacun sorti notre premier disque. Moi, Vertigo, et Stéphane, un EP, 4 titres.
Alors, comment vous vous êtes retrouvé sur le label de Thomas Bangalter?
Parce qu'à cette époque-là, la scène, maintenant on appelle ça musique électronique, mais à l'époque on appelait ça techno ou house, était émergente à Paris. Ça concernait pas grand monde et on se retrouvait tous dans des clubs ou dans des rave parties, et c'était un petit réseau qui se constituait de manière spontanée et naturelle. Et puis on a rencontré chacun Thomas comme ça.
Moi je l'ai rencontré donc moi je suis arrivé dans ce milieu avec mon copain Pedro Winter, avec qui je skatais quand on était enfants ensemble, donc je le connais depuis une éternité. Et lui s'est retrouvé à manager les Daft Punk au tout début. Donc évidemment, c'est comme ça que pour moi, ça a fait la connexion. Et ce qui est quand même amusant, c'est comme il vient de le dire, on a sorti chacun notre premier disque sur roulé, sauf que je savais pas vraiment à l'époque qu'il faisait de la musique électronique. Et donc, c'était quand même une surprise. Surprise pour moi. Surprise pour nous. Et donc c'est assez, avec du recul, c'est assez fou de se dire qu'on a tous les deux sorti notre premier disque sur ce label roulé qui est maintenant un peu légendaire. Donc voilà.
Ouais, alors avec tout ça, est-ce que vous n'avez pas eu à un moment l'impression quand même de vivre un peu tout le temps sous l'ombre de Daft Punk?
Il y a deux options, deux manières de voir la chose. Hein. Sortir un disque sur roulé en 98, c'était une super opportunité. Après, ça t'es associé à Daft Punk encore maintenant, 25 ans plus tard. Il y a du positif, du moins positif. Enfin, globalement, tout ça est très positif. Je crois pas que Stéphane ou moi ayons eu l'impression de vivre dans l'ombre des Daft Punk ou quoi, ouais, que ce soit. Parce que de toute façon, le niveau est quand même relativement haut avec les Daft Punk et nous, on fait notre voix. Chose de manière plus artisanale.
Ah ouais, donc vous avez l'impression comme ça d'être des artisans à côté des Daft Punk?
Je pense qu'on est parfois, je crois qu'on est des artisans hippies. C'est un peu la définition.
Ouais, c'est pas plus mal, parce que quand tu dis d'être dans l'ombre, il y a toujours un petit côté péjoratif, et franchement, on est pas mal. On est pas mal à cet endroit. Voilà, moi en tout cas, la musique, ça arrivait un peu par hasard. Donc évidemment, il y a toujours ce lien qui est là, mais moi j'étais plutôt content d'être à cette place, vu que je me suis retrouvé un peu par hasard dans la musique.
Donc, voilà. Et toi Alain, tu as monté Stardust avec Thomas Bangalter et Benjamin Diamond, et vous avez sorti un tube énorme, un Music Sounds Better With You, à la fin des années 90. Vous avez même refusé la réalisation d'un album à 3 millions de dollars. Un producteur était prêt à mettre cette somme, en tout cas à l'époque. Avec le recul, c'était une bonne ou une mauvaise décision?
Eh ben, avec du recul, avec toujours plus de recul, parce que tout ça, le temps passe. Voilà, j'ai de la barbe blanche, des cheveux blancs. Je me dis que c'était vraiment une bonne décision, parce que le morceau, il est ressorti il y a peut-être 3 ou 4 ans maintenant, parce qu'il n'était pas disponible dans une très longue période. Donc, il est ressorti en digital. Et on arrive à une situation où, en fait, le morceau continue, le morceau fonctionne bien, très bien, et on a un morceau qui est plus incarné par, il n'y a pas d'incarnation par un groupe derrière, en fait. Donc, le morceau vit sa vie tout seul, ce qui est la plus belle histoire qui peut arriver à un morceau de musique, je trouve, en fait. Il est là, les gens l'apprécient. Il n'y a plus de groupe derrière, il y a juste un visuel, et ça fonctionne comme ça, juste la musique fonctionne, mais je pense que c'était une très bonne décision.
Ouais, et puis d'ailleurs, ce morceau s'est créé, je crois, à la rage, dans une improvisation la plus totale.
C'était fait dans le cadre d'une répétition, ouais, pour un concert que je devais faire au Rex. Ça a été fait par hasard, comme tous les morceaux d'ailleurs, en fait, finalement. Au fil du temps, on se rend compte que la plupart des morceaux sont faits par hasard.
Et là, on va revenir à votre actualité. Vous avez sorti l'année dernière un EP et qui s'appelle Step by Step, où on retrouve notamment Panda Bear d'Animal Collective. Cette année, il y a quelques semaines, vous avez sorti un album de remix de cet EP. Mais on va se pencher sur ce titre Step by Step. On retrouve Panda Bear d'Animal Collective. Est-ce que tu peux nous en parler, Alain?
Alors, on a fait une première tentative de travail ensemble il y a 7 ans. Durant laquelle on a finalement posé les bases du EP, mais à l'époque on n'a pas réussi à transformer le stade de la démo, parce que on avait du mal à assumer le fait qu'on n'arrivait plus à faire de la musique de club à chaque fois. Avec la musique de club et le disco, il y a une condition, une sorte de figure imposée qui est d'avoir un kick sur tous les temps, grosso modo, à 120 BPM. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on n'est plus forcément à l'aise. Donc on a travaillé, le EP, il est basé sur le morceau qui s'appelle Step by Step, qui pour nous est juste une déclinaison d'un morceau club, d'un morceau typique de roulé de l'époque, sauf qu'au lieu d'être pensé en club, en format club à 120 BPM, c'est divisé par deux, c'est à 60 BPM et c'est un slow. Mais pour nous, c'est exactement, musicalement, c'est exactement la même structure musicale et la même mécanique, en fait. Donc, ça peut sembler un peu bizarre de l'extérieur, mais pour nous, c'est la même chose, complètement. C'est juste qu'il n'y a pas un kick sur tous les temps.
Eh bien, on va l'écouter, ce morceau, Step by Step, Brax et Falcon en featuring avec Panda Bear. Brax plus Falcon dans Novorama avec le titre Step by Step. Et vous l'avez reconnu au chant, il y a Panda Bear d'Animal Collective, on en parlait un instant. Brax, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration, comment c'est né?
On a signé donc Stéphane et moi avec Domino Recording, qui a lancé un sous-label qui s'appelle Smuggler's Way, qui est spécialisé en électronique. Et Panda Bear est sur Domino, et au travers, lors des discussions avec notre directeur artistique, son nom est venu assez rapidement parce que il aime bien le type de musique qu'on fait. Le featuring s'est fait en fait en un fil. L'idée et l'approbation sur de principe sur le fait de faire ce featuring s'est fait très rapidement, et ensuite l'échange de fichiers et le processus créatif a été fait très rapidement aussi. Donc voilà, c'est juste en fait on aime la musique, on aime nos musiques respectives. Voilà. Au-delà de la French Touch du disco, nous ce qui nous obsède, Stéphane et moi, je crois, c'est la voix, c'est la texture de la voix, qui n'est pas nécessairement rattachée à des paroles ou à un texte, mais la voix comme instrument, des chœurs qu'on peut retrouver dans le gospel ou dans des chants religieux, voilà. Et ça, on le ressent excessivement dans la musique de Panda Bear. Donc la connexion, je pense qu'elle se fait là. Enfin.
Oui, alors justement, tu nous en parlais, la French Touch, c'est quelque chose qui vous a pas mal marqué, qui vous a permis de de conquérir un peu le monde.
Alors déjà, moi je suis un passionné de voyage, et c'est vrai que dès que j'ai commencé à faire le DJ, moi j'ai vu l'opportunité. J'étais très souvent, je mixais que à l'étranger en fait. D'ailleurs j'avais une agence qui était à Londres, donc je mixais très très peu en France. C'est assez récent en fait qu'on mixe en France. Donc déjà voilà, voilà, moi c'était l'opportunité de découvrir la chance, de découvrir le monde. J'en ai profité à fond, quoi.
Donc vous voyagez pas mal, et la French Touch, ça vous colle à la peau tout le temps, en quelque sorte.
Oui, la French Touch, c'est quelque chose qui est clairement identifié, et dont c'est une notion dont on nous parle très souvent. Parfois, on oublie que la France, dans les années 70 et 80, niveau disco, c'était assez fort, en fait. Donc il y a une espèce de fixation qui est faite sur la période 95-2000. Mais l'historique, il est bien antérieur, en fait, si on prend un peu de recul. Donc c'est une longue histoire, je crois. C'est une histoire qui a 50 ans, qui est beaucoup plus longue qu'on croit.
Bon, après, ça, c'est souvent la presse. Il y a des raccourcis, il y a besoin d'identifier facilement les choses, etc. Mais voilà, comme il vient de le dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et nous, en tout cas, on prétend pas défendre ou un truc, mais c'est vrai que depuis que les DAFT ont arrêté, etc. Donc il y en a quelques-uns qui ont un petit peu arrêté en cours de route, et malheureusement Philippe Starr nous a quitté, etc. Donc on se retrouve avec un petit groupe, peut-être Étienne de Crécy, voilà, d'autres gens un peu de l'époque.
Alors justement, tu en parles, Falcon, tu as fait déjà des DJ sets avec Boombas de Cassius et Étienne de Crécy. Vous faites une sorte de trio, un peu des dignes héritiers, un peu de la French Touch.
Alors, tu sais quoi, ça c'est arrivé totalement par hasard. En fait, c'est venu, c'est Étienne de Crécy qui fêtait les 25 ans de Super Discount, un album qu'il avait fait à l'époque, qui est aussi bien représentatif de ce mouvement. Et pour célébrer ça, il avait organisé une soirée, il nous avait demandé de mixer, on a mixé tous ensemble, et on s'est éclaté vraiment. On a passé une soirée incroyable, on a vraiment pris énormément de plaisir à mixer ensemble, qu'on s'est dit, allez hop, pourquoi pas le tenter, etc. Voilà, c'est juste une envie de passer du temps ensemble, et évidemment, après, on a clairement identifié comme... en présentant l'un des derniers dinosaures mais voilà, c'est à la base c'est juste une occasion de passer du temps ensemble, etc. Et oui, là on vient de faire le Fnac Live à Paris, et pareil, à chaque fois on prend énormément de plaisir, donc on va peut-être faire encore quelques petits shows ici et là, c'est possible.
Brax plus Falcon dans Novorama, avec un extrait de leur interview qu'on avait diffusé en septembre dernier. Pour terminer cette émission spéciale, une nouveauté, l'américain LWAV3R. Oui, c'est son nom de code. Le morceau s'appelle People Need, et c'est le dernier titre de notre émission de cette semaine, la première de 2024. To be told something more. I want to be one more energy. I want to help. De cette semaine et la première émission 2024 de Novorama. On se retrouve la semaine prochaine avec Clément. En attendant, il y a toujours notre site internet. Il n'a pas changé depuis l'année dernière. C'est toujours novorama.com et Noveo, Era, Emma. À la semaine prochaine donc. Salut!
Sur radio-g.fr.